de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Boulanger, c'est ici un nom de famille. Pâtisserie, c'est une boutique, là où l'on achète des religieuses, par exemple. Y a-t-il, quelque part dans Neuilly, un fou ou une folle qui voudrait... Mais n'en disons pas trop. Laissons à Maigret le choix des questions personnelles et parfois blessantes. Le goût pour l'imprégnation des lieux. Devant une propriété, par exemple, oasis de calme, de paix et de propreté. Bonne nouvelle, grand comédien, Patrice Galbeau, le 7 février 1992, avait demandé à Louis Seignier de nous raconter « Monsieur Lundi ».
Il y a 2 années environ, j'avais eu la joie de lire à cette même émission une enquête de Maigret. L'accueil que vous aviez bien voulu réserver à cette lecture m'encourage aujourd'hui à vous dire une nouvelle enquête de Maigret. Voilà pourquoi je vais vous conter l'histoire de Monsieur Lundi. Maigret resta un moment immobile devant la grille noire qu'il séparait du jardin et dont la plaque d'émail portait le numéro 47 bis. Il était 5 heures du soir et l'obscurité était complète. Derrière lui coulait un bras maussade de la Seine où s'étirait l'île déserte de Puteaux, avec ses terrains vagues, ses taillis et ses grands peupliers. Devant lui, par contre, au-delà de la grille, c'était un petit hôtel moderne de Neuilly. C'était le quartier du bois de Boulogne avec son élégance, son confort et présentement son tapis de feuilles d'automne. Le 47 bis faisait l'angle du boulevard de la Seine et de la rue Maxime Baès. Au premier étage, on voyait des pièces éclairées et Maigret se décida à presser le timbre électrique. C'est toujours gênant de troubler la vie d'une maison quiète, surtout par un soir d'hiver, quand elle est frileusement repliée sur elle-même, toute pleine, d'une chaleur intime, à plus forte raison, quand l'intrus vient du quai des Orfèvres, les poches gonflées d'horribles documents. Une lumière s'alluma au rez-de-chaussée, une porte s'ouvrit et un domestique, avant de traverser le jardin sous la pluie, essaya d'apercevoir le visiteur. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il au travers la grille. « Le docteur Barion, s'il vous plaît. » Le hall était élégant et Maigret, machinalement, avait poussé sa pipe dans sa poche. « Qui dois-je annoncer ?»« Vous êtes sans doute Martin Vignolet, le chauffeur, » fit le commissaire, à la grande surprise de son interlocuteur. En même temps, il glissait sa carte de visite dans une enveloppe qu'il refermait. Vignolet était un homme de 45 à 50 ans, aux os saillants, aux poils drus, dont l'origine campagnarde était évidente. Il monta au premier, revint quelques instants plus tard, et Maigret dut passer derrière lui, près d'une voiture d'enfant. « Donnez-vous la peine d'entrer ?» prononça le docteur Armand Barion en ouvrant la porte de son cabinet. Il avait les yeux cernés, le teint pâle d'un homme qui n'a pas dormi depuis plusieurs jours. Maigret n'avait pas commencé de parler, qu'il percevait, venant du rez-de-chaussée, des voix d'enfants qui jouaient. Le commissaire, avant d'entrer, connaissait la composition de la maisonnée. Le docteur Barion, phtisiologiste et ancien interne de l'ANEC, n'était installé à Neuilly que depuis 3 ans, et tout en faisant la clientèle, il poursuivait ses travaux de laboratoire. Marié, il avait 3 enfants, un garçon de 7 ans, une fille de 5, et le bébé de quelques mois dont la voiture avait été aperçue par le commissaire. La domesticité se composait de Martin Vignolet, à la fois chauffeur et valet de chambre, de sa femme Eugénie, qui était cuisinière, et enfin, voilà 3 semaines encore, d'une petite bretonne de 18 ans, Olga Boulanger. Je suppose, docteur, que vous n'ignorez pas la raison de ma visite. À la suite de l'autopsie, les boulangers, sur les conseils de leur avocat, ont confirmé leur plainte, se sont constitués partie civile, et je suis chargé. Par toute son attitude, il semblait s'excuser, et ce n'était pas sans un sentiment de gêne, en effet, qu'il abordait cette affaire. 3 semaines plus tôt, Olga Boulanger était morte d'une façon assez mystérieuse. Mais le médecin de l'état civil avait néanmoins délivré le permis d'inhumer. Les parents étaient arrivés de Bretagne pour les obsèques, de vrais paysans de là-bas, durs et méfiants, et ils avaient appris, Dieu sait comment, que leur fille était enceinte de 4 mois. Comment avait-il fait la connaissance de Barthet, un des plus fielleux parmi les avocats? Toujours est-il que sur ses conseils, ils avaient, une semaine plus tard, réclamé l'exhumation et l'autopsie. « J'ai le rapport sur moi », soupira Maigret avec un geste vers sa poche. « Oh, ce n'est pas la peine. Je suis d'autant plus au courant que j'ai obtenu d'assister le médecin légiste. » Il était calme en dépit de sa fatigue et peut-être de sa fièvre. Vêtu de sa blouse de laboratoire, le visage placé sous la lampe, il regardait Maigret dans les yeux, sans jamais détourner le regard. « Inutile d'ajouter que je vous attendais, commissaire. » Sur son bureau, dans un cadre de métal, se trouvait une photographie de sa femme, 30 ans à peine, jolie et d'une fragilité distinguée. Puisque vous avez en poche le rapport du docteur Paul, vous n'ignorez pas que nous avons trouvé l'intestin de cette malheureuse criblé de minuscules perforations qui ont amené un rapide empoisonnement du sang. Vous savez aussi qu'après de minutieuses recherches, nous sommes parvenus à déterminer la cause de ces perforations, ce qui n'a pas été sans troubler mon illustre confrère et moi. Cela nous a troublés à tel point que nous avons éprouvé le besoin d'appeler à la rescousse un médecin colonial à qui nous devons le mot de l'énigme. Maigret hochait la tête et Barion sembla deviner son désir car il s'interrompit. « Oh, fumez, je vous en prie, moi qui soigne surtout des enfants, je ne fume pas. Un cigare ? Non ? Bon, je continue. Le système employé pour tuer ma domestique, car je ne doute pas qu'elle ait été tuée, est courant, paraît-il, en Malaisie et aux Nouvelles-Hébrides. Il s'agit de faire absorber à la victime une certaine quantité de ces fines herbes, dures comme des aiguilles, qui garnissent les épis, entre autres les épis de seigle. Ces barbes restent dans l'intestin, dont elles percent peu à peu les parois, ce qui amène fatalement... Pardon, soupira Maigret. L'autopsie a confirmé aussi qu'Olga Boulanger était bien enceinte de 4 mois et demi. Lui connaissiez-vous des fréquentations qui... Non, non, elle sortait peu, autant dire pas. C'était une petite fille assez gauche, au visage piqué de taches de rousseur. Et il s'empressa de revenir à son sujet. Je vous avoue, commissaire, que depuis cette autopsie, qui a eu lieu, voilà déjà 10 jours, je ne me suis occupé que de cette affaire. Je n'en veux pas aux boulangers, qui sont des gens simples et dont la plainte est évidemment dirigée contre moi. Ma situation n'en serait pas moins tragique si je n'arrivais pas à découvrir la vérité. Par bonheur, j'y suis déjà arrivé en partie. Maigret eut de la peine à cacher sa surprise. Il était venu pour procéder à une enquête, et voilà qu'il se trouvait, pour ainsi dire, en présence d'une enquête toute faite, en face d'un homme calme et net, qui lui faisait un véritable rapport. Nous sommes aujourd'hui quel jour ? Jeudi. Eh bien, depuis lundi, commissaire, j'ai la preuve matérielle que ce n'est pas cette pauvre Olga qu'on a voulu faire mourir. Comment j'y suis arrivé ? De la façon la plus simple. Il fallait découvrir dans quel aliment notre femme de chambre avait pu avaler les brins de seigle. Comme jamais elle n'aurait pensé à se tuer, et surtout à se tuer de cette façon à la fois raffinée et extrêmement douloureuse, une intervention étrangère était évidente. Vous ne croyez pas que votre chauffeur Martin peut avoir eu des rapports avec elle ? J'en suis même sûr, approuva le docteur Barion, je l'ai questionné à ce sujet, et il a fini par avouer. Il n'a pas vécu aux colonies, en Algérie seulement. Mais je puis vous assurer dès maintenant que vous faites fausse route. Patiemment, avec l'aide tantôt de ma femme, tantôt de la cuisinière, j'ai dressé une liste de tous les aliments qui ont passé dans la maison ces derniers temps et j'en ai même analysé quelques-uns. lundi, alors que je désespérais d'arriver à un résultat et que j'étais dans ce cabinet, mon attention a été attirée par un bruit de pas sur le gravier et j'ai aperçu un vieil homme qui se dirigeait familièrement vers la cuisine. C'était celui que nous appelons « Monsieur Lundi » et que j'avais complètement oublié. « Monsieur Lundi ?» répéta Maigret avec un sourire amusé. « Oui, c'est le nom que les enfants lui ont donné, car il vient tous les lundis. Un mendiant à l'ancienne mode, j'allais dire un mendiant d'avant-guerre, propre et digne, qui effectue chaque jour une tournée différente. Ici, c'est le lundi. Des traditions se sont créées peu à peu, entre autres celle de lui garder un repas complet, toujours le même d'ailleurs, car le lundi est pour nous le jour de la poule au riz, qu'il mange tranquillement à la cuisine. » Il amuse les enfants qui vont bavarder avec lui. Voilà longtemps déjà, j'avais remarqué qu'il leur donnait à chacun un de ces gâteaux à la crème qu'on appelle des religieuses, et je suis intervenu. Maigret, assis depuis trop longtemps, se leva et son interlocuteur poursuivit. Vous connaissez cette habitude des commerçants qui préfèrent donner de la marchandise aux pauvres que de l'argent. Je me suis douté que ces religieuses venaient d'un pâtissier du quartier et que vraisemblablement c'était des gâteaux de la veille. Pour ne pas peiner le bonhomme, je ne lui ai rien dit, mais j'ai défendu à mon fils et à ma fille de manger ces gâteaux, que la femme de chambre mangeait à leur place. C'est probable. Et c'est dans ces gâteaux. Cette semaine, Monsieur Lundi est venu comme d'habitude, avec ses deux religieuses enveloppées dans un papier crème. Après son départ, j'ai examiné les pâtisseries que je vous soumettrai tout à l'heure et j'y ai découvert des barbes de seigle en quantité suffisante pour provoquer les troubles qui ont amené la mort d'Olga. Comprenez-vous maintenant? Ce n'est pas cette pauvre fille qui était visée, mais mes enfants. On entendait toujours leur voix, l'étage en dessous, il faisait calme et tiède, avec parfois le glissement chuintant d'une auto sur l'asphalte du quai. J'en ai encore parlé à personne. Je vous attendais. Vous soupçonnez ce mendiant de Monsieur Lundi? Oh, jamais de la vie. D'ailleurs, je n'ai pas tout dit. Et la suite suffira à mettre ce pauvre bonhomme hors de cause. Hier, je suis allé à l'hôpital, puis j'ai rendu visite à quelques confrères. Je voulais savoir si les derniers temps, ils n'avaient enregistré aucun cas analogue à celui d'Olga Boulanger. La voix sèche, il se passa la main sur le front. Or, j'ai acquis la quasi-certitude que deux personnes au moins sont mortes de la même façon. L'une, voilà près de 2 mois, l'autre, il y a seulement 3 semaines. Elles avaient mangé des gâteaux? J'ai pas pu le savoir, les médecins s'étant fatalement trompés sur la cause de la mort et n'ayant pas jugé nécessaire de provoquer une enquête. Voilà, commissaire, je ne sais rien d'autre. Mais j'en ai appris assez, comme vous voyez, pour être épouvanté. Il y a quelque part dans Neuilly, un fou ou une folle qui, je ne sais comment, parvient à mettre de la mort dans des gâteaux. Vous me disiez tout à l'heure que c'était vos enfants qui étaient visés. Oui, j'en reste persuadé. Je comprends votre question. Comment le meurtrier s'arrange-t-il pour que ce soit précisément les gâteaux de M. Lundi qui... Oui, d'autant plus qu'il y a eu d'autres cas. Je sais. Je ne me l'explique pas. Il paraissait sincère, et pourtant Maigret ne pouvait s'empêcher de l'observer à la dérobée. « Vous me permettez de vous poser une question personnelle ?»« Je vous en prie. Excusez-moi si elle vous blesse. Les boulangers vous accusent d'avoir eu des rapports avec leur fille. » Le médecin baissa la tête et gronda. « Je savais bien qu'on y viendrait. »« Je ne veux pas vous mentir, commissaire, c'est vrai. Bêtement vrai. » Car c'est arrivé bêtement un dimanche que j'étais seul ici avec cette fille. Donnerais tout au monde pour que ma femme ne l'apprenne jamais, car elle en souffrirait trop. D'autre part, je puis vous jurer, foi de médecin, qu'à ce moment, Olga était déjà la maîtresse de mon chauffeur. Si bien que l'enfant n'était pas de moi, je vous assure. Les dates ne correspondent même pas. Au surplus, Olga était une bonne fille qui n'aurait jamais songé à me faire chanter. Vous voyez que Maigret ne voulait pas lui donner le temps de se ressaisir. Et vous ne connaissez personne qui... Attendez, vous avez parlé tout à l'heure d'un fou ou d'une folle. En effet, seulement, c'est impossible, matériellement impossible. Monsieur Lundi ne passe jamais chez elle avant de venir ici. Quand il y va, ensuite, on le laisse à la rue et on lui jette des sous par la fenêtre. Mais de qui parlez-vous? De Miss Wilfur. Vous allez voir qu'il y a une justice immanente. J'adore ma femme, et pourtant j'ai deux secrets vis-à-vis d'elle. Le premier, vous le connaissez déjà. L'autre est encore plus ridicule. S'il faisait jour, vous verriez au-delà de cette fenêtre une maison habitée par une Anglaise de 38 ans, Laurence Wilfur, et sa mère, qui est impotente. Ce sont la fille et la femme de feu le colonel Wilfur, de l'armée coloniale. Il y a plus d'un an de cela, quand les deux femmes sont revenues d'un long séjour dans le Midi, j'ai été appelé un soir au chevet de la demoiselle qui se plaignait de douleurs vagues. J'ai été assez surpris d'abord parce que je ne fais pas de médecine générale, ensuite parce que je ne découvrais aucune maladie à ma cliente. J'ai été plus étonné encore d'apprendre par la conversation qu'elle connaissait tous mes faits et gestes, voire mes moindres manies. Et je n'ai compris qu'en rentrant dans ce cabinet et en apercevant sa fenêtre, dont j'abrège, commissaire, si absurde que cela paraisse, Miss Wilfur est amoureuse de moi, comme on peut l'être à son âge, quand on vit seul avec une vieille femme dans une grande maison morne. Deux fois encore, je m'y suis laissé prendre. Je suis allé chez elle, et comme je l'auscultais, elle a tout à coup saisi ma tête et collé ses lèvres aux miennes. Le lendemain, je recevais une lettre commençant par « Mon chéri ». Et le plus troublant, c'est que Miss Wilfur semble persuadée que nous sommes amants. Je puis vous affirmer le contraire. Depuis lors, je l'ai évitée. J'ai été jusqu'à la mettre à la porte de ce cabinet où elle est venue me relancer. Et si je n'en ai pas parlé à ma femme, c'est à la fois par discrétion professionnelle et pour éviter une jalousie sans fondement. Je ne sais rien de plus. Je vous ai tout dit, comme j'étais décidé à le faire. Je n'accuse pas. Je ne comprends pas. Mais je donnerai 10 ans de ma vie pour éviter que ma femme... Maigret maintenant avait compris que son calme du début était voulu, préparé, obtenu à grand renfort de volonté, et il voyait le jeune médecin en fin de compte, prêt à sangloter devant lui. Enquêtez à votre tour, je ne voudrais pas vous influencer. Comme Maigret traversait le hall, une porte s'ouvrit et deux enfants, un garçonnet et une fillette plus petite, passèrent en courant et en riant. Martin, derrière le commissaire, referma la grille. Maigret, cette semaine-là, connut le quartier jusqu'à l'écœurement. Avec une obstination pesante, il passait des heures entières à arpenter le quai, malgré le temps qui restait pluvieux, malgré l'étonnement de certains domestiques qu'il avait repérés et qui se demandaient si ce promeneur équivoque ne préparait pas un vilain coup. À voir du dehors la maison du docteur Barion, on avait l'impression d'une oasis de paix, de travail et de propreté. Plusieurs fois, Maigret aperçut Madame Barion, qui poussait elle-même le long de la berge la voiture du dernier-né. Un matin d'éclaircie, il suivit du regard les jeux des deux aînés dans le jardin où une escarpolette était installée. Quant à là où ils furent, il ne la vit qu'une fois. Elle était grande, solidement charpentée, sans grâce aucune, affligée de grands pieds et d'une démarche masculine. Maigret la suivit à tout hasard, mais dans une librairie anglaise du quartier, elle se contenta d'échanger des livres qu'elle prenait par abonnement. Alors Maigret grandit peu à peu le cercle de ses pérégrinations, alla jusqu'à l'avenue du Neuilly, où il repéra deux pâtisseries. La première, étroite et sombre, à la façade peinte d'un vilain jaune, ce serait assez bien harmonisé avec cette sinistre histoire de gâteau de la mort. Mais le commissaire chercha en vain à l'étalage, se renseigna à l'intérieur, on n'y faisait pas de religieuse. L'autre était la pâtisserie élégante du quartier, avec 2 ou 3 guéridons de marbre où l'on pouvait prendre le thé. Pâtisserie Bigorot. Tout y était clair, sucré, parfumé. Une jeune fille aux joues roses allait et venait gaiement, tandis que la caisse était tenue par une dame très distinguée en robe de soie noire. Fallait-il croire ? Maigret ne se décidait pas à agir. À mesure que le temps passait, que sa conversation avec le docteur devenait plus lointaine, les accusations de celui-ci, reprises en quelque sorte à la loupe, laissaient voir leur fragilité, au point qu'à certains moments, le commissaire avait vraiment l'impression d'un cauchemar ridicule, d'une histoire inventée de toutes pièces, par un mégalomane ou par un homme traqué. Et pourtant, le rapport du médecin légiste confirmait les dires de Barion. La pauvre Olga, au visage orné de taches de sang, était bien morte par suite de l'absorption de barbe de seigle. Et les gâteaux du lundi suivant, les deux religieuses de ce fantomatique monsieur lundi, contenaient, elles aussi, glissées entre les deux parties de pâte, un nombre considérable de ces barbes. Mais n'avait-on pas pu les y mettre après coup? Pour comble, si le père d'Olga, qui tenait une auberge dans son village du Finistère, était retourné là-bas, sa femme, en grand deuil, se raccrochait à Paris et passait des heures qu'est des orfèvres dans l'antichambre à guetter Maigret pour avoir des nouvelles. Encore une qui croyait la police toute puissante. Pour un peu, elle se fut fâchée et il fallait l'entendre prononcer les traits durs, les lèvres tirées. Quand est-ce que vous l'arrêtez? Qui sait si elle ne finirait pas par accuser Maigret de quelque louche complicité. Il décida pourtant d'attendre le lundi. Et ce faisant, il avait presque d'air mort, d'autant plus qu'il voyait chaque matin un vaste plateau de religieuses vernies de crème au café à la vitrine de la pâtisserie Bigorot. Pouvait-il jurer qu'elle ne contenait pas encore de la mort, que cette jeune fille qui en emportait précisément trois, que ce garçon qui en dévorait une en revenant de l'école ne subirait pas le sort d'Olga? À 1 heure déjà le lundi, il était en faction non loin de la pâtisserie, et à 2 heures seulement, il aperçut un vieillard qu'il reconnut sans l'avoir jamais vu. Les enfants ont un génie à eux. C'était bien monsieur Lundi, qui s'avançait à petits pas, qui est philosophe, souriant à la vie, savourant les minutes, ramassant quasiment leurs miettes. D'un geste familier, il poussait la porte de la pâtisserie, et Maigret du dehors était témoin de la bonne humeur de madame et de mademoiselle Bigorot, qui échangeaient des plaisanteries avec le vieux. On était content de le voir, c'était certain. Sa misère n'était pas de celle qui attriste. Il leur racontait quelque chose qui les faisait rire, et la jeune fille dodue se rappelait enfin les rites du lundi, se penchait dans l'étalage, choisissait 2 religieuses que d'un geste professionnel, et l'entortillait de papier crème. Monsieur Lundi, sans se presser, entrait chez le cordonnier d'à côté, mais là, il ne recevait qu'une piécette, puis au tabac du coin, où on lui donnait un peu de tabac à priser. Rien d'imprévu dans ces journées, c'était flagrant. Et les gens du lundi, ceux du mardi, dans un autre quartier, ceux du mercredi, ailleurs encore, pouvaient régler leur montre d'après son passage. Il ne tarda pas à atteindre le boulevard de la Seine, et sa démarche devint plus sautillante à mesure qu'il approchait de la maison du docteur. Celle-là, c'était la bonne maison. Celle où l'attendait un vrai repas, le même repas que les maîtres avaient fait un peu plus tôt, un repas assis, devant une table, dans une cuisine nette et bien chauffée. Il entrait en familier des lieux, par la porte de service, et Maigret sonna à l'autre. « Je voudrais voir le docteur tout de suite, » dit-il à Martin. On le fit monter. « Voulez-vous demander qu'on nous apporte immédiatement les 2 religieuses ? Le vieux est en bas. » Le père lundi mangeait, sans se douter que dans le cabinet de consultation, 2 hommes se penchaient sur le cadeau qu'il apportait au gosse. « Rien, » conclut Barion après une étude attentive. Donc, il y avait des semaines où les gâteaux étaient chargés de mort et d'autres où ils étaient inoffensifs. Je vous remercie. Où allez-vous? Trop tard. Maigret était déjà dans l'escalier. Entrez par ici, monsieur. La pauvre madame Bigorot était affolée à l'idée qu'une de ses clientes pourrait savoir qu'elle recevait un policier. Elle l'introduisait dans un petit salon bourgeois aux fenêtres garnies de vitraux qui faisait suite au magasin. Des tartes refroidissaient sur tous les meubles et même sur les bras des fauteuils. Je voudrais vous demander pourquoi vous donnez toujours 2 religieuses et non d'autres gâteaux au vieux qui vient chaque lundi. C'est bien simple, monsieur. Au début, on lui donnait n'importe quoi. Des gâteaux défraîchis pour la plupart ou des gâteaux de la veille. 2 ou 3 fois, le hasard a voulu que ce soit des religieuses qui sont assez fragiles. Puis on lui a donné autre chose. Et je me souviens que cette fois-là, il a voulu acheter quand même 2 religieuses. Elle me porte chance, a-t-il déclaré. Alors, comme c'est un bon vieux, nous avons pris l'habitude. Bon, une autre question. Avez-vous une cliente du nom de Miss Wilfur? Oui, Pourquoi me demandez-vous cela ? Pour rien. C'est une charmante personne, n'est-ce pas ? Vous trouvez ? Et le ton de ce « vous trouvez » encouragea Maigret à assurer. Bon, je veux dire que c'est une originale. Ah, ça oui, une originale, comme vous dites, qui ne sait jamais ce qu'elle veut. S'il y avait beaucoup de clientes comme elle, il faudrait doubler le personnel. Elle vient souvent ? Jamais. Je crois bien que je ne l'ai jamais vue. Mais elle téléphone, moitié en français, moitié en anglais, si bien qu'il y a sans cesse des erreurs. Non, asseyez-vous donc, monsieur. Je vous demande pardon de vous laisser debout. Non, j'ai fini. C'est moi qui vous demande pardon, madame, de vous avoir dérangé. Trois bouts de phrases qui suffisaient à tout expliquer bourdonnaient dans la tête de Maigret. La pâtissière n'avait-elle pas dit, en parlant de la Wilfur, une originale qui ne sait jamais ce qu'elle veut. Puis, s'il y avait beaucoup de clientes comme elle, il faudrait doubler le personnel. Or, l'instant d'après, la même pâtissière avouait qu'elle n'avait jamais vu cette personne, mais que celle-ci téléphonait, moitié en français, moitié en anglais. Maigret n'avait pas voulu insister, il serait temps, quand on en serait aux interrogatoires officiels, ailleurs que dans cette pâtisserie douceâtre, sans compter que Madame Migoreau pouvait bien retrouver son orgueil de commerçante et se taire plutôt que d'avouer qu'elle acceptait des rendus. Car c'était cela. Les phrases qu'elle avait prononcées ne pouvaient signifier autre chose. L'anglaise commandait par téléphone, moitié en français, moitié dans sa langue, puis elle renvoyait ce qu'on lui avait livré en prétendant qu'il y avait eu erreur. Elle renvoyait les religieuses dans lesquelles elle avait eu le temps, tandis que le porteur attendait à l'office, de glisser des barbes de seigle. Maigret marchait, les mains au fond des poches, vers la maison du docteur Barion, et comme il atteignait la grille, il heurta presque Monsieur Lundy qui en sortait. « Alors, vous avez apporté vos deux religieuses, lança-t-il gaiement. Et comme le vieux restait interloqué, « Oui, je suis un ami de Barion, il paraît que chaque lundi, vous apportez des gâteaux aux enfants. Par exemple, je me demande pourquoi ce sont toujours des religieuses. Vous ne savez pas, c'est pourtant bien simple. Une fois qu'on m'en avait donné, je les avais avec moi, et les enfants les ont vus, ils m'ont avoué que c'est leur pâtisserie préférée. Alors, vu que ce sont de braves gens, comme on n'en trouve plus, qui me font manger comme eux, avec dessert, café et tout, vous comprenez. » Quand le lendemain, un mandat d'arrêt en poche, Maigret se présenta pour arrêter Miss Laurence Wilfur, elle le prit de très haut, menaça de faire intervenir son ambassadeur, puis se défendit pied à pied avec un sang-froid remarquable. Sang-froid qui est une preuve de plus de sa folie, dit le psychiatre chargé de l'examiner. Tout comme ses mensonges d'ailleurs, car elle prétendit être depuis longtemps la maîtresse du docteur et même être enceinte de ses œuvres. Or, l'examen médical prouvait qu'elle était vierge. La visite minutieuse de la maison fit découvrir par ailleurs un grand nombre d'épis de seigle cachés dans un secrétaire. Enfin, on apprit par sa mère que le colonel Wilfur était mort aux Nouvelles-Hébrides de multiples perforations intestinales provoquées par les manœuvres des indigènes. Miss Laurence Wilfur, amoureuse du docteur Barion, jusqu'à vouloir tuer par dépit les enfants de celui-ci, jusqu'à guetter ses moindres faits et gestes, jusqu'à empoisonner les gâteaux d'un pâtissier dans sa volonté farouche d'atteindre son but, Miss Laurence Wilfur, qui avait eu l'idée quasi géniale de se servir à son insu de l'innocent Monsieur Lundy, a été internée pour la vie, dans une maison de santé. Et là, depuis 2 ans, elle annonce à ses compagnes qu'elle va mettre un fils au monde. Thank you.
C'était Bonne Nouvelle Grand Comédien, une émission de Patrice Galbeau. Louis Seignier lisait Monsieur Lundi de Georges Simenon. Première diffusion sur France Culture le 7 février 1992. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Thank you.